Bonjour Marco, compte à rebours. Compte à rebours, la célèbre émission de contes et d'histoires sur CFM toutes les semaines. Si on y arrive, eh bien, la voilà qui commence. Alors, aujourd'hui, ça va être une émission comme autrefois, comme au siècle dernier, parce que, bon, ça fait un moment que je fais des émissions sur cette antenne, depuis le siècle dernier, rendez-vous compte. Et au siècle dernier, bon, l'émission était un peu plus longue, c'est vrai. Du coup, j'avais le temps de faire un petit billet d'humeur en introduction. Et aussi, après avoir raconté une longue histoire, je racontais des petites histoires de Nasreddin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai une petite histoire. Et ma foi, comme ça, je vais pouvoir parler un peu avant. Et puis, y faire quelques histoires de Nasreddin, comme au bon vieux temps. Alors... Bien sûr, il faut pas non plus que je m'étale, hein, parce que j'ai tendance à parler plus qu'il n'en faut. Vous me faites signe, hein, si je traîne et me reprendre un peu pour quand même accélérer et ne pas être bloqué par le temps. On n'a que 25 minutes ou 23, je sais plus exactement. Et donc, compte à rebours, avant de vous présenter la première histoire, la seule histoire, hein, de cette émission, ben un petit billet, et je vais parler de la religion. Ah, et oui. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, j'ai lu récemment un livre de Leïla Slimani. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une romancière d'origine marocaine qui vit en France, qui a écrit quelques livres. Et là, elle a écrit un livre qui s'appelle « Paroles d'honneur sur la condition des femmes au Maroc ». Vous me direz que ça ne doit pas être très passionnant, mais je préciserai qu'il s'agit d'une BD, hein, une bande dessinée. Du coup, la lecture est quand même un peu plus digeste. Et le sujet, c'est vrai, est un peu rude parce que c'est pas gay, hein, quand même là-bas. C'est un peu le mariage pour les jeunes filles et les jeunes hommes aussi, hein, le mariage ou la mort. Hein. Il n'y a pas de possibilité, ou très peu, de rencontre entre garçons et filles. Ou alors, c'est caché, effectivement, dans des buissons, et avec tous les risques et toute la culpabilité qu'il peut y avoir. Il y a ce qu'on appelle là-bas des crimes d'honneur, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui a rencontré un homme de manière cachée, lorsque c'est su par la famille, eh bien, cette jeune fille risque gros de perdre la vie. Hein. On considère que c'est mieux de tuer quelqu'un que de perdre l'honneur, soi-disant. On se demande pourquoi. En tout cas, cette enquête est intéressante, puisque elle, dans cette bande dessinée, dans ce livre, elle voyage, elle rencontre des gens, et notamment, elle discute avec une théologienne, qui s'appelle Asma Lamrabet. Une théologienne, donc, musulmane, et qui lui parle des problèmes liés à la religion, et elle a fait une enquête, cette théologienne, en demandant à des jeunes de dire en trois mots ce que représentait la religion pour eux. Et c'est assez facile de décrypter cette enquête puisque 90% ont répondu la même chose en trois mots. Et les trois mots, le premier c'était peur, le deuxième c'était peur, et le troisième c'était peur. Et oui, la religion était associée exclusivement ou presque exclusivement à la peur. Peur de ce que les gens vont penser, peur de ce que on a le droit de faire ou de pas faire, peur de se faire dénoncer si on a des rencontres cachées. Bref, on a connu ça dans nos pays aussi, il n'y a pas si longtemps. On peut considérer que on s'en est libéré un peu, beaucoup, plus ou moins. Bon, avec le temps, disons que les choses s'estompent, mais En entendant ça, ça m'a fait réfléchir et j'ai pensé à une chose, c'est que ceux qui veulent vivre leur religion davantage, ceux qui veulent lui donner sa plus haute expression, vu que le sentiment lié à la religion qui domine, c'est la peur, sa dimension la plus grande, eh bien, la plus totale, la plus forte, c'est en toute logique la méga-peur. Et la méga-peur, c'est ce qu'on appelle la terreur. Oui, oui. La seule solution pour exprimer sa religion, c'est finalement le terrorisme, la peur du corps, la peur du sexe, la peur de la femme qui sont liées à ces questions religieuses et le terreau de tous les extrémismes radicaux. Heureusement, la religion n'est pas que ça. En fait, souvent, c'est juste une interprétation de la religion par une espèce de communauté bien pensante qui fait peser cette pression. Et la religion, et toutes les religions, sont aussi autre chose, comme nous le rappellent les mystiques. Alors, pour parler d'islam, je rappellerai que Bilal, le premier muezzin de l'islam, on raconte que c'était un esclave abyssinien, libéré par le prophète Mahomet. Et c'est à lui que l'on attribue l'origine de la confrérie Gnawa, qui rassemble des descendants d'esclaves noirs du Mali, du Soudan, amenés jadis au Maroc par des marchands arabes. Et c'est de lui, dit-on, que vient sans doute la karkabat, que vous connaissez. C'est une sorte de castagnette en fer dont le son appelle les forces de la guérison. Parce que oui, la religion peut être aussi guérison. Maalem est un titre que l'on donne aux musiciens qui ont maîtrisé ces forces de guérison. Alors on va écouter ici Si Mohamed Chaouki, un Maalem du Maroc dont la grammaire venait de Tombouctou, qui fait une introduction à une nuit de la guérison. On appelle ces nuits-là Lila. Et ce morceau, bien, c'était aussi, pour ceux qui étaient là au siècle dernier, le générique de l'émission de Briques et de Broc, qui était la première que j'ai fait sur cette antenne, avec des contes. Voilà, souvenir, voici Fangara Fangarié.
Ya la bara 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 ya fulani ya bangara bara ya
Et maintenant, l'histoire. Et d'où vient-elle d'abord ? Eh bien, c'est une amie d'enfance, on peut dire, enfin de lycée. Hein. Une amie de lycée que je n'ai pas revue d'ailleurs depuis cette époque-là, mais qui m'a retrouvé par des biais virtuels, Internet, et elle m'a envoyé une histoire qu'elle avait écrite. Bon, je me suis dit, ben pourquoi pas la raconter, ma foi, hein, et j'espère que ça lui fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de la dire. C'est une histoire qui s'intitule « Coraline et le papillon bleu ». Coraline avait le cœur gros, plein de sanglots. Elle n'avait plus d'amis, plus d'envie. Alors, elle ne faisait que dormir dans le petit lit blanc de la grande chambre blanche. Depuis qu'une petite bête avait emporté son ami Julien, son ami du lit d'à côté, son ami avec qui elle s'entendait si bien, Coraline s'étiolait. Un soir, elle entendit un bruit à la fenêtre, un bruit très léger, un simple bruissement, puis plus rien. « J'ai dû rêver », pensa-t-elle en s'endormant. Le lendemain soir, le bruit recommença, il devint de plus en plus fort. Une petite bête indéfinissable frappait à la fenêtre, insistait. Intriguée, Coraline aurait bien aimé lui ouvrir, mais elle ne pouvait pas se lever. Ses jambes ne voulaient pas la porter. Alors la petite bête disparut dans la nuit, comme déçue. Toute la journée, Coraline pensa qu'à la prochaine nuit, la petite bête reviendrait. Et le soir, quand la gentille dame blanche vint la voir, Coraline lui demanda de laisser la fenêtre ouverte. « Tu n'y penses pas, Coraline, tu aurais trop froid. S'il te plaît, madame, laisse la fenêtre ouverte, elle est juste un peu entrouverte. »« Bon, d'accord, juste un peu. Mais si tu as froid, surtout, n'hésite pas à m'appeler. » La nuit était tombée. Coraline attendait le cœur battant. Quand soudain, un bruit à la fenêtre, le même que la veille. La petite bête montait, descendait, se cognait à la vitre. Puis, elle se faufila enfin dans la chambre. C'était un papillon. Un magnifique papillon bleu. Bleu comme le carré bleu qu'elle voyait de son lit certains soirs au lever de lune. Le papillon se posa doucement sur le bord de la fenêtre. « Tu viens me chercher ? Comme mon ami Julien ?»« Non. » Non, Coraline, je ne viens pas te chercher. Je suis simplement venu te dire. Et le petit papillon bleu lui dit. Il lui dit la mer, les algues et les coquillages. Il lui dit la brume. Et l'écume, le vent et le gros temps. Il lui dit les vagues, et le sable sur les plages, les voiles des bateaux, les cailloux au fond de l'eau. Il lui dit « Mais chut !» Coraline dormait. Alors le petit papillon bleu repartit dans la nuit sans faire de bruit. Le lendemain, le petit papillon bleu revint. Il se posa sur un barreau du lit. Et là, il lui dit « La montagne. La montagne dans les nuages, les routes blanches tout en virage. » Il lui dit le cristal des glaçons le long des balcons et les grands lacs turquoises entourés de toits d'ardoise. Il lui dit aussi le crissement des pas dans la neige vierge, le grondement assourdissant des torrents, le crépitement du bois dans la cheminée et le silence de certaines journées trop enneigées. Et Coraline rêvait. Un autre soir, tout bleu au milieu des draps blancs, le petit papillon lui dit « La campagne. Les champs de marguerite au printemps. Les champs de blé coupés en été, les bouquets de mûres à confiture, l'odeur des sous-bois à champignons, qui l'automne se répand à profusion. Il lui dit la brise qui en hiver devient bise. Il lui dit la course des lièvres peureux le long des fossés herbeux. Et Coraline souriait. Notre soir encore, posé sur l'épaule de Coraline, le petit papillon bleu lui dit, les parcs aux allées de gravier, bordés de fleurs variées, le grand cèdre entouré de gazons si bien coupés, il lui dit les marchands de bonbons, les balançoires, les ballons en forme de poire. Il lui dit les dames roses, les dames bleues, les dames jaunes, les dames à fleurs, les dames à carreaux, les dames à chapeaux, les dames à rayures, les dames à parures, et les enfants qui couraient et se jetaient dans leurs bras en criant, et Coraline riait, riait. Et puis, une nuit, bien plus tard que d'habitude, le petit papillon bleu entra doucement dans la chambre. Il se posa délicatement sur le visage de Coraline et là, il ne dit rien. Il lui fit simplement un baiser sur la joue. Vous savez, le baiser du papillon. Mais Coraline ne bougea pas. Coraline dormait déjà. Coraline, Coraline, allez Coraline, réveille-toi. Tiens, la fenêtre est restée ouverte cette nuit, j'espère que tu n'as pas pris froid, dit la gentille dame blanche en souriant. Mais Coraline ne répondait pas. Allez, aujourd'hui est un grand jour, tu vas te lever. La gentille dame blanche s'approcha de Coraline et lui toucha légèrement le bras. « Allez, fais un effort. Non, tu sais bien que je ne peux pas. Puis j'ai pas envie, j'ai trop sommeil, je préfère dormir. »« Si, si, tu vas te laver et t'habiller. Et en attendant que je prépare tes affaires, regarde sur ta table de nuit. Un livreur est passé très tard hier soir. Je n'ai pas voulu te réveiller. »« Un cadeau ?» Un cadeau attendait Coraline, un magnifique paquet au ruban multicolore. Sa maman, qui habitait si loin, qui travaillait si tard, sa maman avait pensé à elle. Coraline déchira vivement le papier à rayures roses, bleues, jaunes et oh ! Madame, vite, mes habits ! Coraline se lava, s'habilla et Coraline se leva, fit même quelques pas. D'une main, elle se tenait à la gentille dame blanche et de l'autre, elle serrait très fort contre son cœur le cadeau de sa maman. Un livre qui racontait l'histoire d'un petit papillon bleu. L'histoire est terminée, accompagnée par des musiques comme là, ce qu'on vient d'entendre, Rosa Mystica, une harpiste, chanteuse, Thérèse Schröder-Schecker. Et puis aussi, il y avait au début la viole de gambe de Jérôme Solilès. Mais comme on a du temps, il semble, hein, pas beaucoup, non, on n'en a pas du tout. Un petit peu, on va au moins faire une histoire de Nasreddin. Allez, écoutez bien. Nasreddin avait deux filles. L'une était mariée à un fermier, l'autre à un briquetier. Un jour, elle lui rend visite. La femme du fermier lui dit « Mon mari vient de terminer les semailles. S'il pleut, il m'achètera une nouvelle robe. » L'autre dit à son tour « J'espère qu'il n'en sera rien. Mon mari vient de fabriquer une grande quantité de briques prêtes pour la cuisson. S'il ne pleut pas, il m'achètera une nouvelle robe. » Nasreddin répondit « L'une de vous deux mérite certainement quelque chose, mais je ne saurais dire laquelle. » Nasreddin trottait sur son âne quand celui-ci, effrayé par quelque chose qui se trouvait sur le chemin, s'emballa au grand galop. Surpris de le voir passer à cette vitesse inhabituelle, des paysans lui lancèrent « Où vas-tu si vite, Nasreddin ?»«
Ah, mais c'est à mon âne qu'il faut le demander !»
Et voilà, compte à rebours, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Une émission comme au siècle dernier, avec une histoire et Nasreddin. Eh bien, on verra la semaine prochaine ce qu'on fait. En tout cas, je vous invite à écouter. C'était Marco. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao. Thank you.